Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors on est trois dans le studio aujourd'hui pour discuter astronomie avec vous, Axel, Pierrick et Fred.
Bonjour à tous.
Et bonjour.
Alors on espère que vous allez bien ce dimanche matin, que vous avez pu faire des observations du ciel. En ce moment, en tout cas à l'heure où on enregistre, il y a énormément de nuages et de pluie, donc c'est pas vraiment très favorable pour observer le ciel.
C'est sûr.
Mais bon, ça va forcément changer et revenir à un moment ou à un autre.
À Pâques, il fait toujours pourri, non?
Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais peut-être. Alors, on vous rappelle que vous avez le podcast de l'émission sur le site de RDIWA, rdwa.fr, émission thématique, l'étoile polaire. Là, vous avez toutes les émissions depuis le début avec les photos du ciel de l'équipe, Axel et Rémi. Vous avez aussi le mail de l'émission, astro-rdwa@protonmail.com, si vous voulez nous faire des commentaires ou venir participer à l'émission dans la rubrique Nouvel Oeil. On vous rappelle aussi, on vous renvoie à l'émission précédente, hein, on avait donné les dates de Marignac, donc 18 et 19. En fait, la soirée publique sera le 19 juillet à la base de loisirs de Marignac. Et on avait décidé cette année d'organiser un stage d'apprentissage en fait, de l'utilisation au télescope, donc la veille. Le 18. Si vous voulez vous inscrire pour ce stage à Marignac le 18 juillet, nous envoyez, voilà, c'est ce mail que je redonne, donc oui. astro-rdwa@potonmail.com. Voilà, on vous rappelle aussi qu'on sera le premier week-end de juin, donc là c'est 6-7-8.
C'est ça.
6-7-8 juin sur la place de la cathédrale à Die pour On the Moon Again, donc pour à partir de fin d'après-midi, vous faire observer la Lune et d'ailleurs le Soleil aussi cette année. Voilà pour cette petite introduction. Alors, c'est le 87e épisode de l'Étoile Polaire.
C'est pas dans cet numéro messier qu'on a sorti la première image d'un trou noir il y a quelques années. Je crois que c'est le trou noir d'M87.
Eh ben, c'est possible.
Avec Cathy Bouman et toute son équipe.
Avec le prix Nobel et compagnie.
Ouais, c'est ça.
M87,
ouais.
D'accord.
Je crois que c'est ça.
Mais voilà, alors ça va être une
émission. Tu m'es venu comme ça quand tu dis.
Mais bon, quel talent. Quel talent. Alors, le sommaire de cette émission, ça va être d'abord le ciel ce soir, comme d'habitude. Ensuite, quelques actus du monde de l'astronomie. Ensuite, ce sera la chronique astrale. Là, je vais vous parler un peu de l'année zodiacale. L'année, en fait, je développerai tout à l'heure. Et donc, ça nous amènera à parler un petit peu de précession des équinoxes. Et puis après la pause musicale, ce sera Pierrick avec sa Cosmo-Mytho rubrique qui nous parlera du paradoxe de Olbers, à savoir pourquoi le ciel est-il noir la nuit.
Et oui, derrière cette question se cache un grand pan de la cosmologie.
Super. Voilà. Alors on va commencer avec le ciel ce soir et cette semaine, c'est Axel qui s'y colle.
Et ben ouais, le ciel du soir qui arrive de plus en plus tard, maintenant qu'on se rapproche du mois de juin petit à petit. La constellation qu'on a dès le coucher du soleil plein sud, bien droit dans sa forme idéale, c'est le lion qui trône, ce lion couché de profil un peu comme un sphinx, enfin comme un lion couché finalement
vu de profil, ouais, c'est ouais. Ça
avec ses étoiles assez brillantes, avec Régulus. Et puis pour ceux dotés d'un télescope, avec un petit objet sympathique, le triplé du Lion, qui sont trois belles galaxies. Et si vous n'êtes pas doté de télescope, mais d'Internet, vous pouvez toujours aller voir. C'était l'illustration de l'émission 59 sur le site de Radio DIWA. Une photo que j'avais prise de ce triplé de galaxies, donc dans le Lion. À droite du Lion, du coup, on part un petit peu vers l'ouest. J'ai été surpris la semaine dernière de voir les Gémeaux. Et Mars qui s'est aligné. Calé maintenant, qui sont alignés. Au début, j'ai cru que c'était presque la ceinture d'Orion. Au début, je me suis dit, tiens, Orion, c'est heure-ci.
Ouais, pareil.
Non, c'était bien Mars. Puis Pollux, puis Castor, je crois que c'est dans ce temps-là.
Oui, parce qu'il y a un mois, on avait dit, ou un mois et demi, là, ça faisait un triangle, ouais. Vraiment. Et puis là, elles sont alignées, effectivement. Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, si vous nous écoutez, lors de la première diffusion de cette émission, donc, nous sommes le 22 avril. C'est encore à peu près aligné, mais assez vite, Mars s'éloigne vers le sud. Et donc voilà, c'est l'un de plus en plus se rapproche du cancer et de cet amas de la crèche dont on parlait dans la dernière émission brièvement. Arcturus est bien là aussi, au sud des le coucher du soleil, sud-sud-est. Arcturus qui montre le Bouvier, cette constellation en forme de cerf-volant un petit peu, et qui se trouve juste à côté de la couronne boréale dans laquelle il n'y a toujours pas eu
la fameuse Nova.
De Nova. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de date au jour près, mais la période est toujours propice, donc n'hésitez pas toujours à regarder en direction de la couronne boréale juste à côté du Bouvier. Avec un peu de chance, vous verrez une étoile scintiller beaucoup plus fort. Voilà, que dire de plus ? La lyre se lève assez tôt aussi, avant minuit, ouais, on peut voir Vega, pour peu qu'on ait un horizon est, nord-est dégagé. Vega qui se relève et qui annonce doucement l'été aussi, puisque c'est une des trois étoiles du triangle d'été, avec ses copines Deneb et Altaïr. En termes de planètes, tu disais qu'il y avait Vénus peut-être le matin, mais que tu n'avais pas vu. Mais c'est
pas encore vu, ouais. Mais
parce que ça passe pas à travers les nuages, ouais.
C'est ça. Mais il y a Vénus qui est en train de revenir dans la lumière du matin, ouais. Ouais. Sinon, t'as parlé de Mars. On a toujours Jupiter en début de soirée.
Oui, en début de soirée, qui se couche vers minuit. Ouais,
toujours autour du Taureau. Ouais. Et puis ça s'arrête là.
Oui, Saturne est caché en ce moment. Mercure aussi. Ouais. Trop près du Soleil. En perspective. Si vous vous levez tôt, mais très tôt, vous pourrez voir dans les semaines qui suivent là, l'ISS qui passe parfois à 4h du matin, parfois à 5h, parfois à 6h, 6h30, voilà, avec des beaux passages, avec parfois des magnitudes jusqu'à moins 4.
Ah ouais.
Je crois que c'est le 27, si j'ai bien retenu, le 27 avril. Il y a un très beau passage, mais à 6h du matin, donc ça ne sera pas pour moi, mais pour nos amis.
Sauf si tu passes la nuit à observer.
Oui,
c'est vrai.
T'as déjà tenté des photos de l'ISS, Axel ?
Non.
Mais ça bouge trop, de toute façon.
C'est trop dur, non ?
Non, si, ça se fait, il y a des amateurs qui en font.
J'ai déjà vu des photos avec un fond, avec la lune.
Sur un transit, quand ils passent devant quelque chose.
Non, même pas. Non, des fois, sur fond noir, comme ça, ouais.
Mais t'arrives à voir quelque chose ?
Ah ouais, tu vois des détails. Ah tiens, il y avait tant de Soyouz dockés dessus, des choses comme ça. Ouais.
Ok.
T'as jamais essayé, du coup ?
Non, j'ai pas la focale qu'il faut pour ça.
Ah oui, c'est proche.
Avec le matériel de l'observatoire au cosmodrome, je pourrais, avec ce qu'on utilise pour photographier les planètes, puisque c'est tout petit aussi, je pourrais, mais là c'est l'entraînement qui est pas assez rapide, parce qu'il faut quand même un entraînement assez rapide.
Ou alors
il faut se mettre sur sa trajectoire et on n'a qu'une chance, quoi. Mais le mieux c'est quand même de pouvoir la suivre un petit peu. Et ça se fait, ouais, on peut comment dire, modifier les logiciels qui pilotent les montures
pour
suivre une trajectoire donnée plutôt que pour suivre un point fixe dans le ciel, voilà, pour lui dire tu vas me suivre, faire tel trajet sur tant de secondes.
Voilà. Tu peux anticiper ça et caler au bon endroit. Ok.
Je pense qu'avec Stellarium, peut-être on peut faire ça aussi. Je rappelle pour tous les curieux du ciel, ce fabuleux logiciel Stellarium, logiciel d'éphéméride, comme on dit. Vous pouvez voir tout ce qu'on raconte dans la chronique Le ciel du soir. Vous pourrez voir le ciel à telle date, à telle heure. Vous pouvez changer. Si vous voyez quelque chose de brillant, vous dites tiens, qu'est-ce que c'est ? Hop, réflexe Stellarium. Sur téléphone ou sur ordinateur.
Il a aussi une banque de données de photos où on peut zoomer en fait sur quasiment tous les objets du ciel et ils ont été photographiés, donc on peut voir en fait comme si on avait un télescope.
Oui, un petit peu.
Et on peut aussi changer le système de constellations selon les cultures.
Ah oui.
Donc aller regarder des constellations d'autres cultures et les mails. Donc c'est vrai que Stellarium, en plus il est gratuit.
Oui.
C'est quand même un super logiciel.
Oui, il est gratuit, c'est
très,
ça c'est
très
cool.
Bon outil.
Ouais.
N'hésitez pas à exprimer votre curiosité dessus.
Ok, ben merci Axel pour ce ciel ce soir. On va passer aux actus. Je crois, Pierrick, tu avais 2-3 petits trucs à nous raconter.
Ouais, et ben je voulais parler encore et toujours de SpaceX. C'est fameux acteur du New Space, comme on dit dans le jargon. Qui, quand même, au niveau réutilisation de ces fusées, on est à un booster, donc c'est la partie, la première partie de la fusée, que celui-là, ça fait 27 fois pardon, qu'il le réutilise. Donc c'est quand même une belle performance, je trouve, pour, dans la réutilisation. C'est pas égalé.
Ouais.
C'est une belle prouesse, encore une fois, de leur performance de réutilisation. C'est un peu écolo, finalement.
Ouais, oui, ça fait quand même 26 boosters qui n'ont pas été construits. Quoi. Ouais.
Ouais, qui ne sont pas crachés dans l'eau. Ouais, ou
c'est
dans
donc c'est peut-être pas écolo, mais disons que c'est moins, moins impactant. Quoi. C'est moins monstrueusement la misère.
Voilà.
Mais ils en ont 4 autres boosters aussi que ça fait 20 fois qu'ils utilisent. Donc ils ont quand même une belle, belle réutilisation. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Et je voulais parler aussi d'un phénomène qui se passe sur Mars, que le rover Perseverance, donc Perseverance c'est le rover de la NASA, la petite voiture qui se balade sur Mars, qui a capté des, ce qu'on appelle des Dust Devils. C'est de la poussière du diable, c'est des espèces de petites tornades qui se déclenchent dans l'atmosphère martienne et que Perseverance a filmé.
En fait, c'est plutôt, excusez-moi, des diables de poussière.
Des diables de poussière, mais t'as raison. Qui se forment du coup dans l'atmosphère martienne, donc c'est des petites tornades, c'est pas des grosses tornades comme on a sur Terre, mais plus petites apparemment.
Oui, comme on peut voir des fois dans un champ de blé, mais ça arrive des fois de voir ça. Ouais, ouais.
En ville, des fois il y a des espèces de tourbillons.
Ouais, j'avais vu ça une fois, c'est un décollage de parapente.
Ah ouais.
Et des fois tu regardes et t'as des trucs qui se forment comme ça. Et, et il crie comme ça, dust, dust.
Ah bon,
ouais. C'est marrant. Hein.
En tout cas, voilà, il y a
donc
ça sur Mars.
Sur Mars, ok.
Ouais. Et apparemment, depuis les sondes Viking en 1970, donc les premières sondes atterrir sur Mars, eh ben, on avait déjà filmé.
Ah oui.
Donc ça a l'air assez fréquent. Voilà. Je voulais juste parler de ça.
Ok, bah super, merci Pierrick. On va passer à la chronique astrale. Et donc, cette semaine, j'avais envie de vous parler de l'année zodiacale. Alors, le soleil, il se promène sur le fond du ciel et on en a déjà parlé. Il passe dans un certain nombre de constellations qui sont donc les constellations du zodiaque. C'est-à-dire, comme la Terre tourne autour du soleil, selon un plan, qui est le plan de l'écliptique, si on se place depuis la Terre, on a l'impression que le soleil, en fait, au cours de l'année, va se projeter sur le fond du ciel dans un certain nombre de constellations qui sont celles, en fait, qui sont dans le plan qui prolonge ce plan du système solaire.
Ouais.
Parce que, bon, ça, on en a parlé plein de fois, c'est relativement clair, je pense. En tout cas, j'espère. Et donc, ces constellations sont au nombre de 12, alors 13 si on commence à vraiment pinailler, mais on va pas trop non plus partir dans les détails. On a ces 12 constellations du zodiaque, et donc c'est ce qu'on appelle en fait le signe zodiacal. Donc il y a un lien avec l'astrologie. Ce lien, il est là. Il est que notre signe est défini comme étant en fait la constellation dans laquelle se trouve le soleil au moment de notre naissance. C'est ce qu'on définit comme le signe astrologique.
Oui, oui. Mais comme il était il y a 2000 ans. Mais oui.
Bon, alors
c'est ça.
En tout cas, l'idée de base, c'est ça. Je veux pas trop parler d'astrologie.
Non, on l'a déjà fait.
On l'a déjà fait. Ouais. Je vais en mentionner un petit peu, mais c'est pas forcément le but. En fait, si je vous parle de ça, c'est parce que donc ce soleil, il va décrire effectivement tout un cycle. Donc, on a l'habitude de dire que le premier signe du zodiaque, c'est le Bélier, parce qu'on passe des Poissons au Bélier. Alors pourquoi on a pris l'origine là ?
Ouais.
Eh bien parce que c'est le moment justement de l'équinoxe en fait, du point vernal, ce qu'on appelle le point vernal.
Okay.
Alors bon, là je viens de dire beaucoup de mots, j'aimerais être assez clair pour me faire comprendre, donc on va reprendre ça tranquillement. Il y a deux choses en fait, enfin il y a une chose dont on va parler qui est en fait le mouvement de précession de l'axe de rotation de la Terre. Donc il faut imaginer en fait que la Terre elle tourne sur elle-même autour d'un axe, ça on le sait. Cet axe, il pointe dans une certaine direction. Actuellement, cette direction, elle est très très proche de ce qu'on appelle l'étoile polaire, cette étoile de la petite ours. Mais sauf qu'en réalité, la Terre, elle tourne autour de son axe plutôt comme une toupie. Et une toupie, souvent, en fait, si vous regardez la pointe de l'axe d'une toupie, il a tendance en fait à décrire une petite ellipse ou un petit cercle,
ouais.
En fait.
Ouais, ouais.
C'est ça qu'on appelle la précession en physique.
Okay.
Et donc, en astronomie, on parle de précession des équinoxes. Pourquoi ? Parce que, donc si je parle de ça, c'est parce que bah, l'équinoxe de printemps, on vient de la passer. C'était le 20 mars cette année. Alors, c'est autour du 21 tous les ans. Là, cette année, c'était le 20 et ça marque le début officiel du printemps. Passage de l'hiver au printemps. Et ça marque aussi, normalement, dans l'idée en tout cas, le fait que le soleil est censé passer des poissons au bélier. Donc, puisque les poissons s'arrêtent le 21 mars et à partir du 22 mars, c'est le début de l'année zodiacale, en tout cas astrologique. Sauf que la réalité, si on regarde maintenant à quel moment de l'année le soleil rentre dans les béliers, eh bien, c'est le...
Dans les poissons.
18, ouais. Dans les béliers, le 18 avril.
D'accord.
Donc en fait, au lieu de rentrer dans les béliers le 22 mars, on y rentre le 18 avril. Il y a 3 semaines de décalage.
Ouais.
C'est un des gros arguments qui font dire aux scientifiques que l'astrologie ne peut pas fonctionner puisqu'elle n'est même pas basée sur les mouvements réels du ciel. Alors là, il y a grosse discussion et j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là.
Je mentionne, on l'a déjà fait.
Je mentionne qu'il y a quand même certains astrologues qui en tiennent compte et qui décident de faire une astrologie basée sur réellement l'observation du ciel, mais que c'est une minorité.
Oui.
Mais ça existe quand même, donc on leur accorde quand même ça. Voilà. En tout cas, moi, ce dont je voulais vous parler, c'est de ce mouvement de précession qui lui est un mouvement physique, qui est vraiment comme voilà une toupie. La Terre tourne comme ça autour de son axe et cet axe, en fait, décrit un petit cercle. Donc ça a deux conséquences, en fait.
Ouais.
La première, c'est que eh bien, la direction dans le ciel vers laquelle pointe cet axe va changer au cours du temps. Donc l'étoile dite polaire va changer au cours du temps. Puisque c'est ça, l'étoile polaire. C'est-à-dire qu'actuellement, notre axe, il pointe vers... En tout cas, il est juste à côté en fait de donc ce qu'on appelle l'étoile polaire ou Stella Maris d'ailleurs, c'est aussi un nom de l'étoile polaire parce qu'elle est utilisée en navigation depuis super longtemps pour se repérer.
Du coup,
et donc ou Polaris, nous on l'appelle. Et donc actuellement c'est ça. Mais ce cycle de cette petite rotation en fait de l'axe de rotation de la Terre, il a un cycle de 26 000 ans. Alors 26 000 ans à l'échelle humaine, ça peut sembler long. À l'échelle astronomique, c'est assez rapide. Et même à l'échelle des civilisations, on se rend bien compte qu'en fait, l'étoile polaire, que nous on appelle l'étoile polaire, n'est réellement l'étoile polaire, c'est-à-dire ne désigne le nord que depuis très peu, en fait. Ça fait quelques siècles. Parce que si on regarde, il y a, par exemple, moins en 2000 ans avant Jésus-Christ, donc c'était il y a 4000 ans, l'étoile polaire, c'était Alpha du dragon.
Ok.
Donc, en réalité, nos ancêtres, ils ne pouvaient pas se repérer à l'étoile polaire. Ils devaient se repérer à une autre étoile, qui était donc celle du dragon. Et en fait, le nord céleste ne s'est rapproché de l'étoile polaire que depuis quelques siècles. Donc là, on est au plus près. Mais petit à petit, on va s'en éloigner. Et donc, en fait, si on regarde dans le ciel, en fait, si on prolonge l'axe de rotation de la Terre, dans le ciel, et bien ça forme, en fait, au cours du temps, il y a un cercle qui est décrit. Cercle un peu... Alors, ce n'est pas exactement un cercle, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait grosso modo un cercle. Et ça décrit, donc, en 26 000 ans, un petit tour donc, qui part de l'étoile polaire. Ensuite, on va passer dans ces fées. On va raser le signe. Donc, il y a un moment, à peu près dans 10 000 ans, où ce sera une partie de l'aile du cygne qui sera l'étoile polaire. Et dans 12 000 ans, on sera près de Vega. Ce sera Vega qui sera l'étoile la plus proche. Et puis ensuite, on va continuer. Là, il y a toute une phase, on va passer au-dessus d'Hercule, entre le dragon et Hercule, entre la tête du dragon et Hercule. Et là, il n'y a pas d'étoile brillante. Et il va falloir attendre encore 15, 20 000 ans pour retrouver, en fait, Alpha du dragon.
Pour pouvoir faire des mises en station.
Et pouvoir faire des mises en station décentes. Et ensuite revenir vers l'actuelle étoile polaire de la petite ours. Voilà. Donc, je vous dis, en fait, ça, si on regarde il y a 2000 ans, en l'an 0, en fait, on était assez loin de l'étoile polaire actuelle. On était entre Alpha du Dragon et Polaris actuelle. On était vraiment entre les deux.
Ah ouais, donc ça me pose question de son nom, du coup.
Ouais.
De Polaris.
Ben le nom de Polaris ne date pas du tout de l'Antiquité. Ouais, en fait.
C'est pas les Grecs qui l'appelaient comme ça.
Non. Elle avait un autre nom.
Ouais.
Et je te dis, elle s'appelait aussi Stella Maris. Parce qu'elle était quand même utilisée en navigation pour se repérer, parce qu'on est quand même dans une zone circumpolaire, hein, de toute façon.
Oui, voilà, la zone, elle ne change pas quand même. Hein.
La zone circumpolaire, elle change un petit peu, du coup, puisque tu en changes le centre.
Oui.
Donc, elle est légèrement modifiée. T'as effectivement, par exemple, à un moment, le signe devient dans la zone circumpolaire.
Ah, oui, exact, ouais. Exact,
alors que ce n'est pas le cas maintenant. Tu vois, pareil pour la lyre. Vega, elle flirte avec cette zone-là.
Et la grande ours et Cassiopée sortent de cette zone.
La grande ours, bah exactement.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Elles peuvent en sortir, c'est ça. Et le, tu peux faire rentrer le Bouvier aussi. Tu peux faire rentrer même Hercule du coup.
En fait,
ça change. Ouais, la zone circumpolaire, elle évolue au cours du temps.
Ouais, du coup, tu vois la grande ours se lever à l'est et passer au méridien, aller se coucher à l'ouest, et tout, c'est un délire. Ouais.
Et bon, alors sur quelques milliers d'années, donc à l'échelle d'une vie humaine, on voit pas la différence. Mais enfin, quand on a l'habitude de faire de l'astro, 2000 ans. Hein, c'est quoi? C'est pas grand chose. Donc voilà. Donc j'avais envie de vous parler. Ça, c'est une des premières conséquences. Donc, enfin, c'est la première conséquence de ce mouvement de l'axe de rotation de la Terre et de ce cycle de 26 000 ans. Et donc la deuxième conséquence, c'est le décalage en fait de ce qu'on appelle le point vernal. Alors le point vernal, c'est l'endroit du ciel où se trouve le Soleil au moment de l'équinoxe de printemps. C'est ça qu'on appelle le point vernal. Donc, au moment où on a inventé tous ces délires de constellations et tout, c'était à peu près il y a 2000 ans, effectivement, le Soleil passait des poissons au Bélier le 21 mars, enfin le 22 mars. Mais depuis 2000 ans, ou 2 ou 3000 ans, ça s'est décalé de 3 semaines. Donc là, alors, je ne vais pas faire l'explication géométrique, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, je vais m'abstenir. Par contre, je vais vous donner le résultat. Alors, c'est-à-dire que si, pour ceux que ça peut intéresser, je vais vous donner l'année zodiacale, puisque c'était le sujet quand même de ma rubrique, l'année zodiacale réelle, c'est-à-dire à quel moment, où est le soleil, à quel moment de l'année. Parce que c'est un autre. Alors, déjà, il y a 3 semaines de décalage, donc à cause de la précession des équinoxes par rapport au calendrier officiel de l'astrologie. Il y a un autre débat qui est que toutes les constellations n'ont pas la même taille. Et que donc, il ne faut pas forcément un mois pour changer de constellation. En réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a des constellations qui sont beaucoup plus grandes que d'autres.
Entre le Cancer et la Vierge, il y a un monde, quoi.
Ouais. On est bien d'accord. Ouais, ouais. Donc, puis même, tu prends entre le Bélier et puis le Lion, par exemple, c'est clair que c'est pas le même monde.
Ouais.
Donc, voilà. Alors, je vais vous donner l'année zodiacale et je clôturerai ma rubrique là-dessus. Le Soleil est dans le Bélier du 18 avril au 13 mai. Il est dans les Taureaux du 14 mai au 20 juin. Il est dans les Gémeaux du 21 juin au 19 juillet. Dans le Cancer du 20 juillet au 10 août, dans le Lion du 11 août au 15 septembre, dans la Vierge du 16 septembre au 29 octobre, dans la Balance du 30 octobre au 23 novembre, dans le Scorpion du 24 novembre au 17 décembre, dans le Sagittaire du 18 décembre au 18 janvier, dans le Capricorne du 19 janvier au 15 février, dans le Verseau du 14 février au 11 mars, et dans les Poissons du 12 mars au 17 avril. Et donc, on repart début de l'année zodiacale, réelle, le 18 avril. Voilà. Alors, il y a un autre... Je vais te clôturer. Donc ça, si ça vous amuse, vous pouvez regarder votre signe réel, quelque part.
Oui, justement, avec l'Extellarium dont on parlait tout à l'heure.
On peut le faire.
Faire ça.
Tout à fait.
Vous mettez votre date de naissance.
Ou même avec Miniciel, qui est plus simple que Stellarium, et qui suffit pour faire ça. Ouais. En fait, regardez où est le soleil à telle date, on voit très bien. Miniciel, logiciel très simple qui vous permet de repérer la position des planètes, du soleil, de la lune, à n'importe quelle date. Et c'est avec ça que j'ai fait.
Okay.
Je vais clôturer tout ça en parlant de la notion d'air, l'air du Bélier. Alors, l'air du Verseau, dont on a beaucoup parlé dans les années 70, Age of Aquarius. Ce qu'on appelle l'air, en fait, eh bien, c'est dans, on a parlé du point vernal, de ce moment, en fait, où est le soleil au moment de l'équinoxe de printemps. Mais maintenant, cet équinoxe de printemps, c'est toujours le 21 mars. Alors, où est le soleil maintenant, le 21 mars, en fait, puisqu'il n'est pas en train de passer dans le Bélier? Le 21 mars, en fait, il vient d'arriver dans les Poissons, en fait.
Okay.
Donc, on est dans ce qu'on appelle dans l'ère des Poissons.
Ouais.
Et en fait, ça se décale. Petit à petit, ça se décale. Et il y a un moment, en fait, où, au lieu d'être dans les poissons, il sera carrément dans le Verseau. Et ce sera ça, l'ère du Verseau. Le 21 mars, finalement. Sauf que ça, c'est pas du tout dans les années 70 tel que ça a été. C'est en 2640. On entrera dans l'ère du Verseau. Et là, on est dans l'ère du Poisson, dans laquelle on est depuis moins 450.
C'est long un peu.
Et avant ça, on était dans l'ère du Bélier depuis la fin de la préhistoire. Voilà, j'avais envie de parler de ça. Je m'arrêterai là. Je vous laisse en tirer vos propres interprétations et vos propres conclusions. Et puis, on va passer à la pause musicale. Cette semaine, ça va être un morceau de Led Zeppelin qui s'appelle Rumble On.
I'm
et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors après ce petit voyage dans les années 70, on va passer à la suite de l'émission avec la Cosmo-Mytho-Rubrique. Et donc Pierrick, cette semaine, tu nous parles du paradoxe de Olbers.
C'est ça, je vais vous parler de ce paradoxe de Olbers qui en 1823 a posé ce paradoxe. Mais avant, comme toujours, il faut revenir un peu en arrière pour essayer de comprendre cette question. Pourquoi le ciel est noir la nuit ? Donc derrière cette question triviale, voire naïve, se pose une énorme question de la cosmologie. Est-ce que, en fait, une question même que tout le monde se pose,
oui.
Fondamentale, oui, est-ce que l'univers est fini ? Est-ce que l'univers est infini ? D'où je viens ? Qu'est-ce que je fais ?
Où cours-je ? Dans quelle étagère ?
Voilà. Et donc cette question, elle a pris la tête à beaucoup de monde pendant très longtemps. Si en fait la base de ce truc, c'est que si l'univers est infini, ce qu'on pensait, c'est qu'il y a une infinité d'étoiles dans le ciel, et donc de là, il y a une lumière infinie qui nous arrive. Et de ce fait, s'il y a une lumière infinie qui nous arrive, la nuit devrait être lumineuse également.
Et donc le ciel serait blanc la nuit.
Voilà.
Ouais. Ou jaune. Hein.
Oui, oui.
Lumineux, quoi.
Leur étoile.
Il serait lumineux le jour et lumineux la nuit. De différence finalement entre les deux.
Or ce n'est pas le cas,
hein. pour illustrer ça, j'avais envie de vous parler du Hubble Deep Field, donc cette photo magistrale du télescope Hubble qui a pris un dixième de la pleine lune, de surface du ciel, un dixième de la pleine lune, et qui a fait une photo pendant plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures, je sais plus.
Une semaine. Ouais.
Une semaine de pause sur un dixième de la pleine lune, donc trois fois rien. Et elle a fait une photo et là, elle a repéré 10 000 galaxies dans ce petit coin d'univers. Donc en fait, n'importe où on regarde, il y a effectivement quelque chose. Mais il ne fait toujours pas jour la nuit. Donc ça, après, ça me fait arriver à Kepler en 1610 qui a posé cette base que je viens d'expliquer. Ensuite, on arrive à Edwin Halley, donc celui qui a découvert la comète de Halley, là, grand astronome en 1720, qui lui fait des calculs. Et ces calculs sont, en fait, pour lui, les étoiles lointaines, normalement, sont moins lumineuses, vu qu'elles sont plus loin. Mais comme il y en a beaucoup plus, puisqu'on regarde plus loin, elles contribuent d'autant plus, normalement, à illuminer le ciel la nuit. Donc il y a toujours cette idée que ça ne marche pas dans les calculs, dans la théorie. Normalement, il ferait jour la nuit. Ensuite, il y a De Chézeau, un Suisse, qui lui pense qu'il y a un milieu opaque dans l'univers. Il y a quelque chose d'opaque, donc de poussière, de nuages.
Qui va absorber un peu de la lumière.
Voilà, ouais. Qui va stopper la lumière pour expliquer un peu que du coup il fait nuit. Mais on n'y est pas trop encore, hein. On ne sait pas trop pourquoi. Et du coup, on arrive à Heinrich Olbers en 1823, qui lui part du principe que on aurait en fait une vue limitée. En fait, quand on regarde le ciel, on se heurterait à une espèce de mur d'étoiles, un rempart d'étoiles, et notre vision serait bornée. On ne pourrait pas voir plus loin vu qu'il y aurait une espèce de mur d'étoiles. Et donc, il ferait jour tout le temps. Et c'est lui qui a posé cette base de ce paradoxe que je viens d'expliquer. Et donc, à partir de là, il y a eu plusieurs résolutions de ce problème. La première, c'est ça vient du poète Edgar Allan Poe, qui en 1848 a écrit Eureka. Et il décrit dans un poème que la lumière lointaine n'est pas encore arrivée à nous. Et là, c'est le premier qui pose un peu cette idée
vitesse de lumière, que la lumière a une vitesse finie.
Lumière a une vitesse. Que la lumière n'est pas illimitée, en fait.
Qu'elle ne se déplace pas de façon instantanée. En fait.
Ouais, voilà. Que tout ça est limité, et pas illimité comme le reste.
Et c'est un poète, pas un astrophysicien.
Et bah ouais. qui a sûrement inspiré d'autres, mais en tout cas, il a eu cette idée. Ouais.
Ouais. Un poète torturé et alcoolique, je précise.
Ouais, il a été. C'est Apollinaire qui l'a traduit.
En plus. Voilà. Ouais. Rajoute des couches.
Alors, si je continue, on passe à Lord Kelvin. Donc, Lord Kelvin, grand astronome aussi. Et, lui, c'est pareil, il a posé la base que, justement, la lumière et la vitesse n'est pas infinie. De sorte que il y a plein de lumières qui ne sont pas encore arrivées. De sorte qu'en fait, on a un univers observable et un univers non observable.
Ce qu'on appelle maintenant l'horizon.
Voilà, on peut voir jusqu'à un certain point, mais après on ne peut plus voir, parce que la lumière n'est pas encore arrivée. Et ensuite, on a compris, dans la cosmologie plus récente, que les étoiles ont une durée de vie limitée. Ça, ce n'était pas non plus gagné. Et avant. Oui. Ouais. On pensait que tout était infini.
Oui, ça aurait pu être immuable un peu.
Voilà, ouais, ouais. Une forme de... Ça nous paraît évident maintenant, mais à l'époque, pas du tout. Qu'on a compris la thermonucléaire des étoiles et que finalement, il y a comme un carburant qui, à force, s'épuise. Et que donc, elles s'éteignent et qu'elles ont une durée de vie limitée. Même si c'est à très grande échelle, elles s'arrêtent. Par exemple, le Soleil, a priori, il va vivre 8 milliards d'années et il en a déjà fait la moitié, c'est-à-dire 4 milliards. Et j'en arrive à la dernière question, à la dernière réplique, c'est que l'univers est en expansion. Ça, c'est Edwin Hubble, donc ça, c'est l'astronome.
Ouais, c'est encore plus récent.
Encore plus récent, qui a réussi à mesurer l'expansion de l'univers. Et donc, à partir de ces trois postulats, on arrive à se dire que finalement, la nuit est noire. Mais que tout ce problème a été longtemps quelque chose qui a amené beaucoup de réflexions à tout le monde. Et qu'on ne comprenait pas pourquoi il ne fait pas jour la nuit.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une infinité d'étoiles en fait, qui nous apparaissent ?
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je finirai là-dessus. Finalement, on voit bien ce qu'on veut. C'est que finalement, ce n'est que nos yeux qui nous... Oui. Qu'on voit ce qu'on a, ce qu'on observe, mais finalement, parce que en 1950, je crois, on a découvert le fond diffus cosmologique, la première lumière, la lumière de base de l'univers. Partout où on regarde dans le ciel, on observe toujours ce fond diffus cosmologique.
Je vous renvoie à une des émissions que j'ai fait cet hiver, j'ai traité le sujet.
Et du coup, mais cette lumière, nos yeux ne peuvent pas l'apercevoir. Pourtant, elle est là.
Non, c'est un micro-ondes.
Et ouais, toute la... De toute façon, oui, on le sait, sur le spectre visible de la lumière, c'est vraiment pas grand-chose sur tout ce qu'est la lumière en réalité.
Et oui, on a déjà parlé de radio, de... Et oui.
Radio, de, ne serait-ce que d'infrarouge, d'ultraviolet, oui, rayon X, rayon gamma...
On ne voit pas la lumière qui porte nos voix sur les ondes du 107.5 FM, à partir de l'émetteur de Justin jusqu'à votre poste radio. On ne voit pas la lumière qui réchauffe nos aliments dans le micro-ondes, dans le four micro-ondes.
Bah, on a tendance à appeler lumière, en fait,
le spectre visible.
En réalité, c'est le rayonnement électromagnétique.
Le vrai nom.
Le nom un peu plus juste de cette affaire.
Oui, c'est un peu faux de dire lumière.
Finalement. Ce que nous, on appelle lumière, c'est cette toute petite partie entre 0,4 et 0,8 micromètres du spectre électromagnétique.
Et, ouais. Et donc, voilà, finalement, on voit bien ce qu'on veut.
Ce qu'on peut.
Ce qu'on veut souvent aussi, mais c'est un autre débat.
Ouais, on en a sociaux. Mais oui.
Et voilà, je vous laisse terminer là-dessus.
Ok.
Yes. Merci, Pierrick, et Aubers, et Pau.
Et tous, ouais, et tous les autres.
Vraiment, mais c'est
oui, mais c'est sûr que c'est une longue histoire. Enfin, ça fait partie un petit peu des... Enfin, ça décrit une histoire de la pensée aussi.
C'est ça.
De comment on perçoit l'univers, comment on perçoit ce qu'il y a autour de nous.
Et d'une manière scientifique, quoi. C'est vraiment au début de Kepler, tout ça, c'est vraiment les débuts de la pensée scientifique qu'on a actuellement.
Mais c'est étonnant quand même le rôle de Pau.
Eh oui. Eh oui, oui.
Poe, en plus.
Avant Einstein, tu vois. Avant, ouais. Avant qu'Einstein prouve la vitesse de la lumière.
Parce que même au sein des écrivains, il a un rôle un petit peu. Enfin, il a une position un peu à part, Edgar Allan Poe. C'est un des. C'est peut-être le premier ou vraiment un des précurseurs de tout ce qui est fantastique ou littérature un peu d'horreur. Ou c'est un des premiers à être entré un peu dans ce mode un peu torturé avec des visions assez morbides, etc. Enfin, et c'est vieux, quoi. Et il a eu une vie au final assez misérable. Alors il a eu une petite période en fait où il a été connu aux États-Unis pendant un certain temps, mais en fait, bon, ben voilà, tout à l'heure je l'ai dit un peu sur le mode léger, mais en fait c'est pas drôle, il était vraiment profondément alcoolique, et il en est mort d'ailleurs. Hein. Ah, ouais. En fait, il est pas mort de l'alcool, il est mort d'abstinence d'alcool et d'avoir bu, en fait. Ouais. D'une sorte de délirium très mince, en fait, un truc où en fait tu bois pas, tu t'abstiens pendant un certain temps, mais d'un coup tu bois et en fait ça te tue.
Ah ouais.
Et bon, bah voilà, donc c'est un mec qui a eu une influence littéraire énorme, mais énorme, Poe. Y compris sur des mecs comme Lovecraft ou d'autres. Enfin bon, c'est encore un autre, type de sujet, mais donc c'est étonnant, je trouve que. Enfin, c'est intéressant que ce type-là ait eu aussi quelque part un rôle quelque part dans l'astro, en fait, ouais, et dans les concepts, en fait.
Petite vision comme ça.
Ouais, intéressant.
C'est finalement,
c'est conceptuel tout ça finalement. Oui. C'est que des exercices de pensée.
Oui, c'est ça.
C'est abstrait. Vas-y, Axel.
Qu'est-ce qui est plus infini entre la pensée humaine et l'imagination humaine et l'univers?
Vaste débat. Et oui. Et ben on va vous laisser réfléchir à ça. Et nous-mêmes, on va y réfléchir cette semaine. Ouais. On vous souhaite de belles observations et à la prochaine fois.
Merci. Ciao. Bon dimanche.